Bon, le Canadien a perdu hier. On va y revenir tantôt, ouais. Parce qu'évidemment, la boxe a dominé l'actualité sportive en fin de semaine. Marie-Ève Dicker est devenue pour la première fois championne du monde des super mi-moyens. C'est la première Québécoise à gagner. On lui parle aussi dans les prochaines minutes. Mais ce qui retient l'attention, c'est évidemment l'état du boxeur Adonis Stevenson, qui est en train de se stabiliser, en tout cas, selon les dernières infos.
Oui, selon ce qu'Yvon Michel a écrit sur Twitter hier, on dit que l'état d'Adonis est passé de critique à une évolution vers la stabilité. Est-ce que ça veut dire que son état est stable ou en voie de le devenir? Là, je me prononcerai pas là-dessus, là, je suis pas médecin. Là. Mais disons qu'on a accueilli ça comme une bonne nouvelle dans les circonstances, dans l'entourage d'Adonis Stevenson. Tout ça à la suite de son combat de samedi soir au Centre Vidéotron, où il a été mitraillé de coups au 11e round. A dû recevoir l'aide de son entourage pour regagner le vestiaire, mais on dit qu'au vestiaire, les choses allaient mieux. Et c'est après que ça s'est gâté, notamment lorsqu'il est sorti de la douche après son combat. Et on va en parler avec Jean-Philippe Arcan, journaliste à la presse, qui tient également le blog Ringside.
Et fils de l'animateur, t'as donc déclaré tous les conflits d'intérêts potentiels.
C'est ça. Alors, c'est dit. Et qui était à Québec au Centre Vidéotron samedi soir lors de ce combat. Salut Jean-Philippe.
Bonjour tout le monde.
Écoute, Jean-Philippe, là, on nous dit que les nouvelles, bon, sont tant vers la stabilité, sauf que tu lis les commentaires, là, ce matin. Beaucoup font un rapprochement avec David Whittem, qui est demeuré dans un coma artificiel pendant plusieurs mois avant de décéder. Comment dans l'entourage de Stevenson, là, quel était, t'étais là, toi, t'as eu l'occasion de côtoyer, comment les gens réagissent à ça, là? Est-ce que les gens font des références au cas de Whittem, par exemple?
Ben, moi, personnellement, j'ai pas entendu de référence directe à ce cas-là. C'est sûr qu'évidemment, il y avait énormément d'inquiétudes, là, dans le clan Stevenson et Yvon Michel, parce que, justement, tu l'as dit, on sait pas comment ça va évoluer. On n'a pas le choix d'y aller d'heure en heure. C'est vraiment, il lutte pour sa survie, donc d'heure en heure. Alors, je pense que c'est vraiment le tout l'inconnu, si on veut, qui entoure ça, qui inquiète grandement. Évidemment, on souhaite pas ça à personne, puis d'autant plus que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent non plus. Je pense qu'Yvon même disait que c'est la première fois en tout près de 40 ans de carrière qu'il avait à composer avec une situation comme celle-là. Alors, c'est vraiment, on y va non seulement encore une fois, de jour en jour, mais d'heure en heure. On n'a pas vraiment le choix, mais c'est sûr que tout le monde est encore très inquiet.
Surtout que ça arrive à Adonis Stevenson. Moi, je pense que c'était lui le champion. Écoute, la façon dont il se comportait dans le ring depuis le début de sa carrière, c'est quelqu'un qui dominait ses rivaux. Et là, t'apprends tout d'un coup que c'est lui qui se retrouve dans un état critique à l'hôpital. Ça ajoute, je pense, à l'ampleur de la nouvelle, là.
Ben, c'est sûr. Bien, en plus, bon, c'était le champion en titre. C'était quand même pas n'importe qui. C'était son 10e combat, sa 10e défense de sa ceinture. Ça faisait 5 ans qu'il était champion. Et puis, en plus, ben, c'est ça, ça arrive chez nous. Donc, c'est sûr. Il y a eu des cas, dernièrement, des boxeurs qui ont subi soit des traumatismes crâniens ou qui sont carrément décédés. Il y en a eu en Europe. Il y en a eu au Canada anglais.
Il y a eu en Alberta, je pense, il y a quelques mois, là.
Ouais, Tim Haig, entre autres, là, qui est mort après un combat contre Adam Braidwood, là, qu'on a vu ici. Mais donc, c'est ça, c'est veut pas, c'est que ça nous touche de près aussi, je pense, qui ajoute, si on veut, à la stupeur que ça suscite un peu partout.
Mais peux-tu résumer le combat de samedi, là? Stevenson se battait comment et des derniers moments, là, quand il y a eu le fameux knockout?
Ah ben, il battait pas mal du tout. La preuve, c'est qu'au moment de l'arrêt du combat, il était en avance sur la carte de 2 des 3 juges et le 3e avait un combat nul. Alors, il n'était pas du tout déclassé. Le problème, façon de parler, mais disons, ce qui arrivait, c'est que, je veux pas, à 41 ans, il ne rajeunit pas et peut-être que l'énergie, plus le combat avançait, plus ça diminuait. Ce qui fait que Monique Vosdick, son adversaire, comme on dit, l'a travaillé, l'a usé tranquillement. Et en l'usant comme ça, ben la garde de Stevenson s'est ouverte un peu plus, ce qui fait en sorte que Gvozdik a été en mesure de l'atteindre beaucoup plus solidement. Mais sinon, jusque-là, non, Stevenson avait eu des moments, disons, un peu moins forts, des rounds un peu moins solides. Mais à chaque fois, c'est ce qui était un peu surprenant, ce qu'on se disait entre nous, c'est qu'à chaque fois qu'on pensait qu'il était peut-être sur le point de tomber ou sur le point de perdre, ben il trouvait le moyen quand même de rebondir. Alors, il était tout à fait encore dans le coup. Et puis, donc, finalement, ça s'est soldé comme ça s'est soldé.
Est-ce que l'arbitre aurait dû arrêter le combat plus tôt?
Non, je pense pas. Michael Griffin, d'abord, il faut savoir que c'est un des meilleurs arbitres au Québec et qui a une réputation vraiment mondiale. Non, je pense qu'il est intervenu exactement au bon moment. Parce que, comme je dis, encore une fois, si ça avait été clair que vraiment Stevenson était juste plus capable de se défendre plus tôt dans le combat, là, il aurait dû intervenir. Mais là, justement, il était capable de répliquer, même si des fois on sentait que l'énergie diminuait tranquillement. Mais non, je pense que Michael Griffin n'a absolument rien à se reprocher là-dessus.
Merci, Héritier. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir, géniteur.
C'est une belle façon de me présenter. Et bon, alors évidemment, ça c'est pour Adonis Stevenson. Malheureusement, la victoire de Marie-Ève Dicker est peut-être passée un peu en deuxième place. C'est dommage parce que quand même, elle devient la première Québécoise championne du monde de boxe. Elle est avec nous ce matin. Marie-Ève Dicker, bonjour.
Bon matin.
Alors, racontez-nous un peu votre combat. Est-ce que ça s'est déroulé tel que prévu?
Oui, tout d'abord, j'aimerais souligner que de mon côté, que ma victoire passe un petit peu en deuxième plan. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pas grave parce que j'aurai toute ma vie pour célébrer ce moment-là. Puis, toutes mes pensées vont à la famille et aux proches d'Adonis Stevenson parce que c'est vraiment difficile pour eux, pour le sport en général. Puis, de mon côté, je souhaite que tout aille pour le mieux pour ça avant de célébrer cette victoire-là.
Okay, vous êtes monté dans le ring après le combat de Stevenson, si...
tout de suite après le combat de Adonis.
À ce moment-là, qu'est-ce que vous saviez de la situation de Stevenson?
À ce moment-là, de mon côté, tout allait bien parce que Adonis était le vestiaire à côté de moi, donc je l'ai vu rentrer au vestiaire. J'ai entendu les applaudissements de son équipe qui soulignaient son bon travail malgré le résultat qui était peu escompté, mais qui semblait avoir une équipe derrière lui. On entendait les encouragements, les applaudissements. Et par la suite, je n'ai eu connaissance de rien parce qu'on se préparait, on allait monter dans le ring. C'est seulement une fois le combat terminé en conférence de presse que je l'ai appris. Là.
OK. Ben, parlez-nous du combat. Comment ça s'est passé?
Je dois dire que ça a été un combat qui a été très difficile. Par contre, c'est un combat comme ça qu'on s'attendait. Mon équipe a vraiment m'a préparé en fonction d'un combat difficile comme ça. Puis je dois dire que le travail de mes hommes de coin, de Stéphane Arnois, Marc Hamzé et Luc Vincent, a été déterminant, a été la clé dans ce combat-là parce qu'ils ont pu me permettre de m'ajuster puis de finalement mettre la main sur cette ceinture-là.
Moi, j'ai une question à la lumière de ce qui s'est passé. Depuis la fin de semaine, il y a des gens qui réclament l'interdiction de la boxe. Que contrairement aux autres sports, quand quelqu'un a une commotion, c'est parce qu'il se blesse, par exemple. Dans l'exercice de son sport, dans le cas de la boxe, vous vous cognez sur le visage.
C'est l'objectif.
Est-ce que vous pensez à ça, vous, qu'un jour vous pourriez avoir des séquelles de votre carrière de boxeuse?
C'est sûr que c'est quelque chose qui est quand même omniprésent dans le cas où on se prépare pour ça. Par contre, justement, comme c'est quelque chose qui est omniprésent, on porte un grand soin à la défensive, aux techniques de blocage, puis à éviter en particulier ces coups-là. Je pense que c'est la clé pour une longue carrière dans le sport. Puis, malheureusement, il y en a peut-être qui sous-estiment un peu l'impact des coups de poing puis qui vont foncer tête baissée dans ces coups-là. Je peux affirmer que de mon côté, avec mon équipe d'entraîneurs, ce qu'on travaille, c'est vraiment très accentué sur la défensive. Puis peut-être aussi que ça va changer les mentalités et les styles de boxeurs de plus en plus. On voit des boxeurs qui sont très techniques, des boxeurs qui sont pas touchés. Je pense à Vasyl Lomachenko, je pense à Canelo Alvarez. Je pense qu'un petit peu... l'air de boxeur tough qui encaisse les coups pour en donner commence à être résolu, puis je pense que c'est une bonne chose pour le sport aussi. Là.
Vous êtes championne du monde maintenant. Quel est l'état de la boxe féminine dans le monde? Quelles sont les perspectives d'avenir pour vous à partir de maintenant? Est-ce que c'est bien organisé comme ça l'est chez les hommes?
Je pense qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire de ce côté-là. Par contre, c'est le jour et la nuit si je compare à mes débuts en boxe professionnelle il y a 3 ans. On n'est plus du tout au même point. Je dois dire que la boxe féminine prend de plus en plus d'ampleur. On voit notamment des gros combats sur des événements d'envergure, sur les réseaux américains, sur HBO, sur Showtime. On fait une place à la femme. Puis, je pense que ça doit dire aussi, ça va aussi avec l'arrivée des femmes techniciennes, des filles qui ont un beau background de boxe amateur, qui ont de la boxe en arrière d'elles, qui sont encadrées, qui sont soutenues, qui sont entraînées comme de vraies athlètes. Et je pense que c'est vraiment le début d'une nouvelle ère, là.
Merci beaucoup. Bravo à vous.
Merci. Félicitations.
Bonne journée. Marie-Ève Dicker, donc championne IBF, la première Québécoise donc qui remporte ce prix-là. Juste revenir aussi sur le déferlement de haine sur les réseaux sociaux en fin de semaine. Là, on connaît tous le passé criminel d'Adonis Stevenson. On sait qu'il était dans le domaine de la prostitution. On sait qu'il y a eu des victimes qui ont témoigné contre lui. Tout ça est vrai, là. Puis on a le droit de ne pas l'aimer, puis on a le droit de ne pas l'encourager, puis on a le droit de ne pas acheter des billets pour aller le voir, puis on a le droit de faire ça. Mais quand quelqu'un est entre la vie puis la mort à l'hôpital, on vous dit pas de rendre des hommages. On vous dit peut-être de vous la fermer, tout simplement, parce que là, tu sais, ça devient... pas, c'est plus que déplacé. Tu sais, je comprends que dans l'anonymat, on peut faire n'importe quoi, là, mais ça, moi, ça m'a jeté à terre en fin de semaine. Tu sais, je suis pas un de ces fans, là. Puis je parlais avec... J'échangeais avec des amis. On n'est pas des gros, gros fans de Adonis. Au contraire, puis en bonne partie pour ce que je viens de décrire. Mais écoute, le gars est à l'hôpital, il est père de 5 enfants, là, puis tu sais pas s'il va sortir vivant de ça.
Dans quel état il va, tant qu'à
insulter le gars ou sa mémoire, ou tu sais, il passe un tour, là, il me semble que c'est pas nécessaire.
Faites d'autres choses.
Ben, mettons. Et le Canadien qui a perdu hier.
Oui, défaite de 3-1 face aux Sharks de San Jose. Ils ont pris les devants 2-0 dès la première période. Le Canadien n'était pas dans le coup, mais est revenu un peu en deuxième et surtout en troisième. 22 tirs. Martin Jones a bloqué 39 des 40 lancés dirigés vers lui. D'ailleurs, lui a le numéro des Canadiens. Les Sharks ont le numéro des Canadiens également. Il a gagné ses 6 derniers matchs contre la formation montréalaise. Et le Canadien joue 2 fois contre les Sénateurs cette semaine, demain, au Centre Bell, jeudi à Ottawa.
Bon, encore une fois, tu nous caches une nouvelle.
Radon, toi, laquelle?
C'est pas un autre premier choix repêchage qu'on a perdu?
Ah, ben, Sherbach, oui, qui est rentré avec les...
Ah.
Écoute, Paul, sur les 13 derniers premiers choix du choix de première ronde du Canadien, il en reste 4 avec l'organisation. Et j'ai inclus là-dedans McCarron, qui est à Laval et qui n'a pas un avenir très, très brillant avec l'organisation.
Fait que depuis Carey Price, là, on peut pas dire
non,
que...
Non, exactement, c'est le dernier. Et j'ai inclus également Ryan Poehling, qui joue encore dans le collège américain.
OK.
Mais ce qui est surtout dans le cas, et là, il y en a une série là-dedans, là, t'as eu, écoute, des Tino Hardy, puis
Leblanc,
oui, puis t'en as une gang, là. Mais l'autre chose, c'est que, prends Sergachev, par exemple. Au moins, tu sais, t'as fait une transaction, t'es allé chercher Jonathan Drouin.
Oh, oui, oui.
Ryan McDonough, c'est une transaction, une très mauvaise transaction, là, pour Scott Gomez. Mais, tu sais, dans le cas de Sherbach, dans le cas de Delarose, qui était pas un choix de première ronde, par contre, là, tu sais, t'es père absolument pour rien, ces gars-là. Là. Ils sont placés au balotage et puis...
Tu sais qu'il y a une blague que j'ai vue passer hier qui disait que Shea Weber avait eu une meilleure séquence que Gomez. C'est-à-dire que tu sais, il a marqué son premier but après 360
oui,
quelques jours.
300, ça va être pas loin d'un an, ouais.
C'est ça. Alors que Gomez était un petit peu plus long que ça. La différence, c'est que Weber, il jouait pas.
Il jouait pas.
Gomez, lui, il patinait. Légère différence.
C'est vrai que Gomez, ça va être assez long, ça, séquence.
Oui, un petit peu, quand même. 8h24, le pont Champlain.